L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêt maintenant à aller dans la parole? Amen. Avez-vous vos épées avec vous? Amen. Gloire à Dieu. On va juste pencher nos têtes pendant quelques instants et puis on va prier, on va remettre cette portion au Seigneur. Amen. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, ce matin. On te remercie parce que tu es ici parmi nous. On te remercie pour la présence de ton esprit qui nous visite pendant la louange, mais c'est même pendant cette portion de la parole et partout ce message va être distribué, Seigneur Dieu, proclamé. On te remercie pour ton onction qui travaille dans les cœurs aujourd'hui même. Et Seigneur, j'ai besoin de ton aide, Seigneur, je réclame ton aide, Seigneur, pour livrer cette parole que tu as déposée sur mon cœur. Je te remercie pour des oreilles qui entendent ce que l'Esprit de Dieu veut dire à l'Église aujourd'hui. Je te remercie pour un peuple courageux qui se tient pour la vérité. Je te remercie pour ce peuple qui ne veut pas juste entendre des paroles douces et flatteuses, mais Seigneur, qui veulent vraiment marcher dans la vérité de ta parole de Dieu, de ta parole, Seigneur Dieu. On te remercie à l'avance pour les percées qu'on va recevoir dans le monde spirituel, pour les vies transformées, pour les personnes délivrées et protégées par cette parole. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Cette semaine, comme je cherchais la face de Dieu, j'ai reçu juste l'expression ou une phrase de la parole de Dieu qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 5, commençant au 15e verset. Donc, Éphésiens chapitre 5, versets 15 et 16. On va aller lire ça ensemble et puis je vais vous donner le message que Dieu a déposé sur mon cœur. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 15 et verset 16. Amen. Il est écrit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, ou dans Bible du Sommeur, ça dit: veillez donc avec soin à votre manière de vivre, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ce que j'ai reçu dans mon esprit pour vous, c'était rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Dans la parole vivante, la traduction parole vivante, nous lisons: devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables malgré les difficultés de l'heure. Amen. Donc, rachetez le temps. Dieu nous appelle, nous, dans cette maison et partout dans la francophonie, pour chaque personne qui va recevoir ce message, on veut aujourd'hui comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Dieu nous dit, rachetez le temps. Je veux le relire encore une fois. Ça dit, au 15e verset, c'est dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Si nous sommes sages, nous allons obéir au prochain verset qui dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et vous savez, dans notre monde chrétien, on peut entendre plusieurs choses. Par exemple, on peut entendre parler de certains thèmes qu'on peut prêcher comme une série sur 7 clés pour vivre telle chose, 7 clés pour vivre telle percée, 7 clés, 2 clés, 10 clés, les clés qu'on veut. Et on peut apporter beaucoup de choses pratiques pour la vie des croyants. Et c'est bien de le faire à l'occasion. Mais ce matin, j'ai pas 10 clés pour rien. J'ai un message qui vient de Dieu, je crois, pour vous. Et encore une fois, c'est une chose qu'on doit méditer, prendre le temps pour laisser le Seigneur nous révéler des choses. Je crois qu'on vit dans une saison spirituelle où le Seigneur veut nous parler et où le Seigneur veut nous protéger également. Amen. Une des choses, donc le Seigneur nous dit de racheter le temps, mais dans le pratique, comment on va y arriver vraiment? Vous savez, on peut passer notre vie à être occupé et faire plein de choses et passer à côté de notre destinée. Mais si on s'arrête pendant un instant et puis on réalise, si on est un enfant de Dieu, si on a fait de Jésus le Seigneur de notre vie, bien on a une destinée glorieuse, n'est-ce pas? Savez-vous que vous avez une destinée glorieuse en Jésus? Le savez-vous? Amen. On a une destinée glorieuse. C'est merveilleux. Et quand on s'arrête puis on réalise que oui, j'ai une destinée dans cette vie où je peux gagner des âmes pour Jésus, où je peux proclamer l'Évangile, où je peux voir le Seigneur se glorifier dans ma vie, dans ma famille, dans chaque domaine de ma vie, gloire à Dieu pour ça. Mais au-delà de cette vie aujourd'hui, on a une vie éternelle. Et quand on pense à notre vie éternelle, et certainement nous sommes déjà dans l'éternité, mais quand on pense après cette vie dans ce corps, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 12, verset 32, ici nous retrouvons une parole du Seigneur Jésus qui nous parle de notre héritage en Christ, et on parle ici de notre héritage dans l'éternité. Et je trouve ça intéressant des fois de s'arrêter et de voir le grand plan de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est important d'arrêter des fois et de réaliser on n'est pas appelé juste à vivre telle ou telle chose, on n'est pas appelé à vivre juste une petite vie chrétienne normale, mais nous avons un appel gigantesque sur notre vie. C'est merveilleux. Dans Luc chapitre 12, verset 32, nous lisons Jésus qui a dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Avez-vous saisi ça? Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Imaginez, si Dieu le Père me donne le royaume, bien moi, ça veut dire, à quelque part, je vais régner dans ce royaume-là. Dieu m'appelle à régner dans cette vie par Jésus-Christ, nous lisons la parole, mais également, nous savons que Dieu a des projets pour l'épouse de Christ et nous allons régner sur la terre. Nous sommes appelés à régner sur la terre. Et c'est quelque chose qu'on va vivre, certainement, parce que la parole de Dieu nous le dit. Et j'aimerais vous inviter maintenant à venir avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 5 et le verset 10. Si vous dites, régner sur la terre, comment est-ce qu'on va y arriver? On va voir ensemble ici une chose importante. Est-ce que c'est vraiment biblique, ça, qu'on va régner sur la terre? Est-ce que c'est biblique? On va voir ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 10. C'est Jésus qui parlait, il dit... Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voyez-vous ça? C'est dans la parole. Ils régneront sur la terre. Là, pensez pas qu'on va régner avec M. Harper ou d'autres politiciens. On parle pas des choses comme ça en ce moment. On parle ici dans la terre que le Seigneur va rénover par le feu. On connaît les choses que la parole de Dieu nous dit concernant l'eschatologie, concernant les choses de la fin. Donc, on sait que le Seigneur va faire un grand ménage. Ce matin, on passera pas trop de temps à en parler parce que vous savez déjà, vous connaissez déjà ces choses-là. Et puis, si vous ne les connaissez pas, on va l'enseigner encore une fois ou vous pouvez écouter la série sur notre espérance glorieuse. Mais ceci dit, la Bible nous dit, on va régner sur la terre. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on est tellement habitué à juste vivre notre vie chrétienne normale. On va travailler la semaine, après le travail, peut-être on fait les devoirs avec les enfants, on est occupé, on va faire l'épicerie. Samedi matin, on va peut-être à l'IBEM ou on fait d'autres activités. Et puis peut-être au hockey, je ne sais pas, vous êtes dans vos occupations. Et puis dimanche matin, bon, on arrive, on va à l'église. Et puis encore une fois, lundi matin, ça recommence. Et puis on vit juste une routine d'un chrétien qui vit dans la sainteté, il n'y a pas de problème, on a une relation avec Dieu, on prie, et puis on vit notre petite vie chrétienne normale, oubliant que Dieu, en fait, nous a envoyés ici, une fois qu'on est devenu un enfant de Dieu, nous sommes dans ce monde en tant qu'ambassadeurs de Christ, comme on a déjà vu, vous vous en rappelez, on avait fait une étude là-dessus, qu'on est des ambassadeurs de Christ sur la terre en ce moment, mais non seulement ça, nous avons un héritage où la Bible dit « nous allons régner sur la terre ». Bon, imaginez ça. Il faut s'arrêter des fois à réaliser, Dieu me dit que je vais régner sur la terre. Si vous étiez Jésus, admettons que vous êtes le roi Jésus, et vous voulez choisir des chefs pour votre gouvernement divin, imaginez, si vous étiez Jésus, qui allez-vous choisir pour le règne? C'est sûr, si vous êtes sauvé, vous allez faire partie du royaume de Dieu, mais on va avoir des responsabilités différentes dans ce royaume. Savez-vous ça? Si on est fidèle dans de petites choses, Dieu va nous en confier des plus grandes. Mais si on n'est pas vraiment fidèle avec ce que Dieu nous dit, bien, on va passer à côté de certaines bénédictions que Dieu en réserve. Il y a des gens qui disent, bien, moi, en autant que je rentre au ciel, c'est ça qui compte. En autant que je rentre dans ce royaume, moi, je suis bien content. En autant que je me rende. Et on peut penser comme ça, et c'est sûr que c'est préférable se rendre dans le royaume de Dieu que d'être en dehors de son royaume. C'est vrai, gloire à Dieu. Mais on n'a pas besoin d'être satisfait et penser comme ça. Et dire, bien, moi, c'est le minimum. Qui veut avoir le minimum dans la vie? Moi, je veux le maximum de ce que Dieu en réserve pour moi. Amen? Donc, si Dieu me dit, je vais régner, et si on s'imagine, si on était à la place de Jésus, allons-nous choisir quelqu'un qui a gaspillé sa vie, qui n'a pas répondu à l'appel de Dieu sur sa vie? Ou allez-vous choisir quelqu'un, peut-être qui était un incognito, quelqu'un inconnu des gens, mais qui était la poursuite de Dieu pour connaître les lois du royaume de Dieu, pour connaître la philosophie du royaume, qui se préparait pour le règne? Imaginez! Des fois, on pense pas à ça, on pense pas à plus tard, on pense juste aujourd'hui, on pense à demain matin qu'on va aller faire notre épicerie peut-être. On pense juste à court terme, mais Dieu est en train de nous dire ce matin, rachetez le temps, rachetez le temps. Et on peut se préparer pour le règne, imaginez ça. Et je peux vous dire, c'est merveilleux de le savoir parce que si on entend ce message et on dit, je veux me préparer, oui, pour le ministère aujourd'hui, oui, pour faire des bonnes œuvres aujourd'hui, gloire à Dieu, mais je veux également me préparer pour l'éternité. Et c'est ça qu'on va voir ce matin, racheter le temps. Amen. Savez-vous que Dieu nous dit que l'épouse de Christ s'est préparée? Venez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 19 et le verset 7 et 8. Apocalypse 19, verset 7 et 8. Nous lisons ici, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Dites « préparée ». Voyez-vous, son épouse, en parlant de l'Église consacrée, bon, cette Église qui a marché dans la pureté, son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ou dans la Bible de Sommeur, ça dit, ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Vous savez, dans notre monde chrétien, on parle beaucoup de la grâce de Dieu. Et c'est merveilleux parce que c'est important. On doit prêcher la grâce. La Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Donc, la religion prêche, c'est par les œuvres qu'on est sauvés. Et la Bible nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et il y a eu tellement de religions qui ont prêché les œuvres comme étant le moyen d'être réconcilié avec Dieu, qu'on a toujours prêché sur la grâce, la grâce, la grâce, et on doit continuer à prêcher la grâce. Amen, parce que c'est le message, c'est la vérité. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Mais on fait fausse route lorsqu'on oublie qu'après la grâce, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Amen. Dieu nous appelle à servir le Seigneur. Dieu nous a donné une destinée et un mandat divin sur notre vie. Et ce n'est pas vrai qu'une fois qu'on est sauvé, on va juste s'asseoir spirituellement et juste attendre que l'enlèvement arrive ou s'asseoir spirituellement et dire, bien là, je suis sauvé, je suis correct et puis c'est bingo, c'est joué. Non. Si on est sauvé pour faire quelque chose. La Bible nous dit, nous avons été sauvés afin de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, il y a des bonnes œuvres que Dieu en réserve pour ma vie et pour votre vie. Le croyez-vous ce matin? Dieu vous appelle à faire quelque chose. Nous comprenons que nous ne sommes pas sauvés en faisant ces choses-là, mais nous allons faire les bonnes œuvres en remerciement au Seigneur, avec un cœur reconnaissant parce que le Seigneur nous a sauvés et il nous a donné le privilège de le servir comme ça. Amen. Donc, on a mis de côté souvent la dimension des bonnes œuvres parce qu'on a tellement peur de faire partie de ceux qui disent que c'est le moyen du salut. Mais on réalise aujourd'hui, non, ce n'est pas le chemin du salut, les œuvres. On peut faire plein de bonnes œuvres, mais si on n'a pas fait de Jésus le Seigneur de notre vie, si on ne s'est pas repenti de nos péchés, on est autant perdu. On est une personne qui fait beaucoup de bonnes œuvres, mais perdue, et puis ce n'est pas ça qu'on veut. On veut être sauvé, né de nouveau, mais après la réception de cette grâce, là on veut servir le Seigneur. Et la Bible nous dit, ça dit, « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et nous savons en même temps, la parole de Dieu nous dit que nous allons recevoir des récompenses pour les bonnes œuvres que nous aurons faites, selon l'appel de Dieu. Pas n'importe quelle œuvre, mais les œuvres que Dieu nous a appelées à faire. Amen. Bon, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je vous pose une question super importante. Si je me retrouvais devant Dieu aujourd'hui même, si je me retrouvais, là je parle à vous, vous devez vous poser cette question-là. Si je me retrouvais devant Dieu aujourd'hui même, suis-je confiant avoir vraiment répondu à son appel pour ma vie? Vous pouvez vous poser la question aujourd'hui. Suis-je vraiment confiant que j'ai répondu à l'appel de Dieu sur ma vie? Si aujourd'hui même, si j'étais transféré de cette dimension naturelle et je me retrouvais devant le Seigneur aujourd'hui même, pendant la réunion, vous disparaissez, admettons. Seriez-vous 100% sûr et certain que vous auriez répondu à l'appel de Dieu sur votre vie? Et si vous n'êtes pas capable de dire oui, c'est correct, parce que peut-être aujourd'hui le Seigneur va travailler des choses dans votre vie pour que vous puissiez vous lever de votre confort spirituel pour entrer dans le service du roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Donc, avant notre règne, on doit comprendre qu'il y a une période de préparation. Il y a une période de préparation de l'épouse, on vient de le voir. Amen. Je vais vous parler également ce matin d'un homme qui s'appelle Emil Jannings. Combien d'entre vous connaissez Emil Jannings en levant la main? Il n'y a pas un chat ici qui a levé la main. J'ai prêché l'autre jour dans une église comme invité. J'ai fait la même chose. J'ai utilisé ce même nom. Emil Jannings, écoutez bien. Il n'y a personne qui levait la main non plus là-bas. Fut le premier lauréat de l'Oscar du meilleur acteur en 1929. Et compte parmi les comédiens les plus marquants de l'ère du muet. C'est l'homme qui a reçu le premier Oscar, où tout le monde l'a acclamé, les caméras étaient là pour prendre des photos, et puis les appareils photos étaient là, et puis tout le monde l'acclamait aux Oscars. Vous connaissez les Oscars aujourd'hui? Et pourtant, 64 ans plus tard, on l'a oublié. On l'a oublié. Et pourtant, c'était la fin du monde. Dans ce temps-là, c'était comme, wow, la plus grande vedette d'Hollywood. Et puis les hommes l'ont acclamé, et puis ils disaient, wow, il est super bon, merveilleux. Il a même reçu un Oscar. Et pourtant, cet homme-là, on l'oublie. On ne sait même pas c'est qui. Donc, pourquoi que je vous parle de cet homme? Parce que Dieu nous appelle à faire ses œuvres et pas n'importe quelle œuvre. Les œuvres que nous allons accomplir pour le Seigneur Jésus, je peux vous dire, Dieu n'oubliera jamais ces œuvres-là. On ne gaspillera pas notre vie. Parce que si vous vivez pour plaire aux hommes, pour être acclamé des hommes, peut-être vous allez recevoir un petit salaire pendant une courte saison. Les gens vont vous applaudir comme ça et vous allez avoir un sentiment, ah, bien, les gens m'aiment. Mais si ce n'est pas l'appel de Dieu sur votre vie, vous passez à côté de votre destinée. Et ces mêmes personnes qui vous ont acclamé 64 ans plus tard ou peut-être 100 ans plus tard sont déjà décédées. Et puis même ces gens-là, on les a oubliés. Donc, Dieu nous appelle à comprendre que nous sommes ici pour une courte période. Et dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, venez avec moi, dans Jacques chapitre 4, versets 13 et 15, j'aimerais vous lire ici un texte super important. Quand on parle ici, il faut racheter le temps. Dieu nous appelle à être conscients qu'on a juste un certain nombre d'années. On a quelque temps, un court temps à répondre à cet appel-là. Dans Jacques, chapitre 4, versets 13 et 15. Ici, nous lisons, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, qui veut dire on va faire des affaires, de la business, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Voyez-vous ici ce que Jésus nous dit, ou dans, pas Jésus, Jacques ici. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. En fait, Dieu nous appelle, oui, à être humble et réaliser en même temps ce qu'on veut faire avec notre vie, puisque nous sommes ici pour peu de temps, on veut répondre à l'appel de Dieu, être conscient que c'est seulement la direction de Dieu dans notre vie qui va compter vraiment. C'est juste ça qui compte dans la vie. C'est de répondre à ce que Dieu nous appelle à faire. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie et ils n'ont jamais considéré l'éternité. Ils n'ont jamais considéré le but de leur existence. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Est-ce que Dieu a une destinée pour ma vie? Est-ce que j'ai une destinée? Dans Ésaïe 55, verset 2, nous lisons, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. » Donc, pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Si vous dites, oui, mais on est obligé de travailler dans la vie. Oui, on est obligé de travailler, c'est sûr. Dieu ne nous appelle pas à être un peuple oisif. Dieu nous appelle à être vraiment à l'œuvre. Mais il faut connaître l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. C'est tout ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Il faut s'arrêter et voir ce que Dieu m'appelle à faire ceci ou faire cela. Des fois, les gens pensent que Dieu nous appelle seulement à faire des choses qui sont vues des hommes ou grandioses. Non, Dieu peut-être vous appelle à faire un ministère dans le secret que personne ne connaît. Mais Dieu connaît l'appel qu'il a placé sur votre vie et peut-être vous êtes appelé à faire ce ministère avec fidélité, avec un cœur intègre devant Dieu, en servant Dieu avec amour et en sachant que lorsque vous êtes en train d'accomplir telle tâche que personne ne peut voir ou célébrer, vous le faites pour le roi des rois. Puis vous dites, en ce moment, je suis en train de faire ceci pour Jésus, mon roi. Par exemple, si vous venez ici à l'église le dimanche matin et puis vous êtes en train d'aspirer le tapis avant que les gens arrivent, vous pouvez dire, je suis en train d'aspirer le tapis pour Jésus, le roi des rois, qui va faire son entrée ici. Amen. Nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Les frères et sœurs qui arrivent, nous sommes le corps de Christ. Et comme on est en train de faire ça, on est en train d'aspirer le tapis, par exemple, comme exemple que je vous donne, on doit avoir la vision qu'on est en train de le faire pour honorer notre Dieu. Et quand on le fait comme ça, et si vous avez été fidèle à aspirer le tapis, par exemple, okay, vous êtes fidèle à faire ça, Dieu a vu votre fidélité et est capable de dire, cet homme-là est assez humble pour faire tel ministère. Il est assez humble et en plus, il est obéissant à faire telle chose. Là, je vais pouvoir lui confier autre chose. Et gloire à Dieu, dans son royaume, on va avoir beaucoup de surprises, frères et sœurs. Beaucoup de surprises, je crois. Il y a plein de choses qu'on s'attendait de voir. Et finalement, on va voir plein de personnes dans le secret, dans l'ombre, qui vont sortir de l'ombre. Et puis le Seigneur va les célébrer et dire, tu as un cœur pur, tu as un cœur de serviteur et tu seras le plus grand dans le royaume. Amen. Amen. Là, vous dites peut-être, OK, c'est bien, on est appelé à régner un jour. Et on nous pose la question, est-ce que je suis prêt à m'investir pour vraiment arriver à cette place où je suis vraiment prêt à régner? Mais comment faire, Pasteur Joël, comment faire? Il faut premièrement comprendre la priorité de ma préparation. Si je me considère comme étant membre de l'épouse de Christ, je dois comprendre qu'il y a une priorité dans ma vie pour cette préparation. La majorité des chrétiens ne réalisent même pas aujourd'hui qu'on doit se préparer. Il y en a plusieurs, c'est comme, bien, on vit une vie chrétienne, je m'en vais au ciel, c'est bien beau, et puis là, je vis ma vie comme si rien n'était. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui même à se préparer, à être conscient qu'on doit se préparer pour ce règne-là. Gloire à Dieu! Dans 2 Pierre 3, verset 18, je vous invite, venez avec moi dans 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 18, on va voir comment on doit se préparer pour ce règne. Gloire à Dieu! Deux Pierre, chapitre 3, verset 18. Ça nous dit, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, on doit grandir dans la grâce et dans la connaissance. Dites connaissance. Donc, Dieu me dit, « Je dois grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. » Donc, je dois grandir dans la connaissance de Jésus. Par la suite, ça dit, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. C'est ma vision. Donc, je veux grandir dans la grâce et je veux grandir également dans cette connaissance du Seigneur Jésus et comprendre que la gloire lui revient maintenant et pour l'éternité. C'est la vision de l'enfant de Dieu. Donc, premièrement, je dois comprendre qu'il y a une priorité dans ma vie et c'est de grandir dans cette connaissance de Jésus. Comment qu'on peut vraiment arriver à grandir? Certainement, il faut avoir une vie consacrée. On a prêché souvent ici. Okay? Et quand on parle d'une connaissance, on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, on parle d'une connaissance spirituelle de notre Dieu. Nous devons être dans cette quête de vraiment connaître le Seigneur Jésus. Le connaître dans notre cœur, dans le fond intérieur, on doit connaître qui est notre Dieu. Nous avons tous besoin de cette révélation aujourd'hui, que j'ai besoin de grandir dans mon intimité avec Jésus. Je dois grandir dans mon intimité, dans ma connaissance du Seigneur Jésus. J'ai besoin de cette révélation-là aujourd'hui. Amen. Vous avez besoin de dire aujourd'hui, j'ai besoin de grandir dans ma connaissance de qui est mon roi. Jésus, dans la parole de Dieu, nous lisons, il est le roi des rois. Je suis un ambassadeur de Christ et mon mandat, le mandat sur ma vie, c'est de connaître qui est Jésus. C'est ça le mandat sur ma vie. Premièrement, on sait qu'on est appelé à prêcher le message de la réconciliation. En tant qu'ambassadeur, c'est notre mandat. Mais individuellement, personnellement, je dois connaître qui est mon Dieu, qui est mon roi, et son nom est Jésus. Amen. J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui pour vous aider à vous arrêter, pour voir, êtes-vous dans ce cheminement-là à connaître Dieu? Si on dit, mais comment est-ce qu'on peut vraiment connaître Dieu? On ne le voit pas, on ne voit pas Jésus, mais avez-vous déjà entendu parler d'un livre noir qui s'appelle la Bible? On peut connaître notre Dieu Jésus en lisant sa parole. Dans Jean 1:1, ça dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Amen. On parle de Jésus qui s'est révélé à nous. Il est venu habiter parmi nous dans Jean 1:14. Donc, ce qu'on veut faire, c'est avoir une relation vivante avec Jésus en priant, en cherchant sa face et en lisant sa parole. Et vous allez dire, oui, mais c'est aucune révélation. Je le savais, on doit lire notre Bible. On le sait, mais on doit arriver à cette place où on a la révélation qu'on doit grandir continuellement dans cette connaissance de Jésus. Et comme on passe du temps dans sa parole, le Seigneur se révèle de plus en plus et on reçoit de lui les lois spirituelles qui vont gouverner dans son royaume. Si on connaît sa parole, on est en train de se préparer à régner. Amen. Écoutez bien ceci. Je pose des questions. Et là, je vous rappelle, le mot « effort », des fois les gens ont peur de ce mot-là. Parce que dans nos églises, on a beaucoup prêché la grâce, c'est gratuit pour entrer au ciel, c'est gratuit d'être pardonné, c'est gratuit, et c'est la grâce de Dieu, et le peuple de Dieu dit « Amen, c'est sûr et certain ». Mais on a l'impression, c'est une fausse impression, qu'après le salut, on va être écrasé sur notre « lazy boy » spirituel, et puis on ne va plus jamais rien faire. Et je peux vous dire, vous allez vous faire voler dans votre vie spirituelle si vous adoptez cette mauvaise philosophie qu'on n'a plus rien à faire. On ne parle pas ici de se sauver par les bonnes œuvres, on vous rappelle, mais on parle ici d'être actif pour le Seigneur Jésus. Actif. Dieu ne nous appelle pas à être oisif. Amen. La question que je vous pose, faites-vous des efforts pour connaître la parole de Dieu? Faites-vous des efforts pour connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu va vous demander des efforts. Et comment ça? C'est parce que vous allez prendre le temps de lire la parole de Dieu à tous les jours. À tous les jours, vous allez prendre du temps à lire la parole, mais ça va vous prendre des efforts et de la discipline personnelle. La discipline, parce que la chair, votre chair va toujours vous dire, il y a d'autres choses à faire. Au début de l'année, on vous a proposé 15 minutes par jour avec le site web enseignement.com où vous pouvez aller à chaque jour lire le texte biblique ou même appuyer pour entendre le texte biblique qui vous est lu. C'est-à-dire que c'est très facile aujourd'hui. On peut, si on veut, on peut lire avec enseignement. On peut lire aussi comme on se sent dirigé. Si on a un autre programme, il n'y a pas de problème. Mais la question demeure, faites-vous des efforts pour connaître la parole de Dieu? Puis, dans nos églises, on ne veut pas mettre trop de pression sur les gens, on ne veut pas déranger les gens, mais Dieu nous appelle à connaître sa parole. Je vais vous le montrer bibliquement. Mais faites-vous des efforts. Savez-vous expliquer le véritable évangile? Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, savez-vous personnellement comment expliquer le véritable évangile? Vous allez dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment important? On a des pasteurs pour nous l'expliquer. Mais savez-vous comment l'expliquer vous-même? Et si vous dites, ben, c'est pas important, je peux vous dire, vous êtes en train de tomber dans le piège de l'ennemi. Savez-vous pourquoi? S'il y a un courant où les gens se font séduire en ce moment même dans nos églises évangéliques, où il y a un courant de séduction, devrais-je dire, un courant de séduction, c'est parce que les gens ne sont tellement pas, connaissants de la parole de Dieu, on a oublié le message du salut. On a oublié le message du salut et puis on vient endosser des courants sataniques et on dit, ben, faut s'aimer tout le monde. Vous avez entendu parler de ça récemment? Vous vous rappelez, je vous ai prêché de ce thème-là, il y a deux semaines, vous étiez là? Mais la raison pourquoi on peut se faire avoir, c'est parce qu'on a oublié le véritable évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est salut par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Si on prêche un autre évangile, c'est salut par les œuvres, on sait que ce n'est pas la bonne chose. Amen. Donc, savez-vous expliquer le véritable évangile? Savez-vous répondre quand les gens vous posent des questions sur la fin des temps? Les gens qui vont poser des questions, savez-vous comment répondre et expliquer les phénomènes qu'on voit en ce moment même? Savez-vous comment faire? Si vous dites, ben, je ne suis pas sûr, ne soyez pas inquiets, on va vous aider. Il va y avoir des cours pour toutes ces choses-là. On veut vous aider, vous équiper. C'est ça notre appel dans Éphésiens 4, ça dit pour équiper le corps de Christ. On est là pour ça. Mais si vous dites, Bien, je ne sais pas. C'est bien de le réaliser, parce que là, quand on réalise qu'on est en faillite à un certain niveau, ou en déficit plutôt, on peut s'équiper. Amen? Pouvez-vous, en utilisant la parole de Dieu, montrer à quelqu'un le véritable but de la vie? C'est quelqu'un qui vous dit, ben moi, je n'ai pas de but pour ma vie. Savez-vous comment leur montrer, d'après la parole de Dieu, comment on peut avoir un but pour notre vie? Avez-vous un plan pour vous préparer à régner avec Jésus dans son royaume? Avez-vous maintenant un plan pour votre futur règne? Vous avez dit, ben je n'ai jamais pensé à ça. Et c'est un bon dimanche, n'est-ce pas? Amen. Que pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer à jouer un rôle dans son gouvernement divin? Que pouvez-vous faire maintenant? Que souhaitez-vous accomplir cette année en 2014? Avez-vous un plan de Dieu? Après avoir passé du temps dans la prière, avez-vous reçu des instructions pour 2014? Et vous savez que Dieu vous dit, cette année, tu dois accomplir cette chose pour moi. Vous savez, quand on n'a pas reçu une direction de Dieu, c'est là où il y a un courant qui vient et puis on arrête de faire ceci, on arrête de faire cela parce qu'on n'avait pas de mandat divin. Mais si Dieu nous dit, voici ce que je t'appelle à faire, bien, on rentre dans l'appel puis on marche dans l'obéissance. Et puis, on n'est pas du tout distrait par nos raisonnements humains. Ensuite, on doit poser la question, si nous évaluons régulièrement nos plans et notre croissance, nous avancerons dans la bonne direction. Amen. Mais si on ne s'évalue jamais, on n'a aucun plan, aucune vision devant nous, on va tourner en rond. On va tourner en rond, puis on n'avancera pas. Mais Dieu nous appelle à avancer, frères et sœurs. Amen. Je veux vous dire ce matin, si je vous pose des questions comme ça, et puis si vous réalisez c'était non, 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 bien, ça peut devenir des oui. Et je vous rappelle, quand on vous donne des questions comme ça pour vous porter à réfléchir, c'est aucunement pour faire à croire qu'on est sauvé en accomplissant ces choses-là. OK? Je me répète parce qu'il va y avoir des gens sur Internet qui ne veulent pas entendre quand je parle. Ils sont bornés pour dire ce que je ne dis pas. Donc, je me répète, on n'est pas sauvé par les œuvres. Avez-vous compris ça? Mais une fois qu'on est sauvé, Dieu nous appelle à se lever et de servir et de faire quelque chose pour Dieu. Amen? Amen. Moi, j'ai compris. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Amen. Bon, les amis sur Internet, il y a plein de gens ici qui ont compris. C'est ça que je dis. Je ne dis pas qu'on est sauvé par les œuvres. Mais à cause, on a prêché qu'on est sauvé par la grâce, ça revient constamment qu'on n'a plus d'efforts à faire dans notre vie chrétienne. Et là, les gens croient qu'on n'a plus d'efforts. Donc, le moment que c'est un petit peu exigeant, les gens abandonnent la voie de Dieu. Mais si on les transposait dans un autre pays, comme en Corée du Nord, où il va y avoir 33 personnes qui sont devant, un juge qui est là pour décider si on les exécute parce qu'ils sont chrétiens, je peux vous dire, les Canadiens, peut-être, auraient du mal à vivre leur vie chrétienne en Corée du Nord. Amen? Parce que le contexte est très différent. Mais on a des choses à vivre, on a des efforts à mettre dans notre marche chrétienne. Et encore une fois, je sais que ce n'est pas populaire, mais Dieu nous appelle aujourd'hui à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment comprendre ça. Vous êtes toujours avec moi ce matin? Donc, une chose importante, Dieu nous appelle à se préparer. Et une autre chose, ce que je sais que le Seigneur voulait que je vous parle ce matin, c'est que dans cette préparation, on doit être vigilant. On doit être vigilant et comprendre les signes des temps. Il y a un signe qu'on a vraiment oublié dans le corps de Christ, on n'en parle pas, et ça nous parle du contexte spirituel marquant de notre saison spirituelle. Et j'aimerais vous inviter à venir avec moi dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Que Dieu m'aide ce matin, parce que je ne veux pas être du tout un sujet de découragement, mais au contraire, je veux vous inspirer dans le sens que vous allez comprendre que si on reçoit des paroles, Dieu va nous protéger. Dieu nous protège spirituellement comme nous marchons avec lui, comme nous sommes proches, comme nous sommes des enfants de Dieu. On est là, on se tient à côté du Seigneur, on marche avec lui, on marche dans sa présence. On a compris qu'on est appelé à grandir dans cette connaissance de notre Dieu, pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan spirituel, où nous connaissons sa parole et nous vivons sa parole. Nous vivons une relation vivante avec Dieu dans la prière. Nous sommes remplis de son Saint-Esprit, nous sommes remplis de sa présence, de son onction. Gloire à Dieu! Amen. Et là, Dieu nous appelle à être vigilants et d'être spirituellement allumés. On vit dans un temps où on doit vraiment être spirituellement allumés. Et là, je vais vous donner ici un signe. Si je vous dis, parlez-moi un petit peu des signes de la fin des temps. Les gens vont me dire, bien, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des pestes, des famines. Alors là, on va commencer à dire ces choses-là. Mais si on lit une autre chose qu'on n'a jamais vraiment mentionnée, c'est dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Il est écrit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. » Remarquez, à l'époque, là, ça fait longtemps que c'est écrit, mais pourtant, c'est dit, c'est la dernière heure, même à l'époque, depuis le départ de Seigneur Jésus, depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel, l'Esprit-Saint est descendu sur l'Église primitive. Et puis là, on sait que depuis ce temps-là, on vit dans les derniers temps. Donc aujourd'hui, on est encore plus loin dans les temps de la fin. Il se dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc ici, nous voyons un des signes du temps de la fin, c'est des antichrists. Voyez-vous, avez-vous vu ça dans votre Bible? Ça dit, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc même dans le temps de l'Église primitive, ici on le sait là, que quand il y avait des antichrists, c'était un signe qu'on était dans les temps de la fin. Là, venez avec moi dans Matthieu 24 et le verset 4 à 5. Je vais vous lire ici, Matthieu 24, versets 4 et 5. Dieu appelle son peuple aujourd'hui à être réveillé spirituellement. Dieu nous appelle ici, à Granby, en Acadie, partout, peu importe où les gens vont entendre ce message. Dieu nous appelle à se préparer, racheter le temps, être consacré à Dieu, être vigilant et d'être vraiment loyal envers la parole de Dieu. On doit marcher dans la loyauté et de faire attention aux faux courants qui sont là dans le corps de Christ. Dans Matthieu 24, 4 et 5, ça dit, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Dans Bible du Sommeur, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ » et séduiront beaucoup de gens. » Avez-vous lu le même texte? Ça, c'est un signe des temps de la fin. C'est dit, plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et si on remplace le mot Christ, c'est le oin, c'est le mot onction. Il y en a plusieurs qui vont dire, c'est moi le oin. Ils vont attirer une foule de personnes vers leur personnalité. C'est moi qui suis le Christ. Et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ ou de faux oints et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Ici, on sait que Matthieu 24 nous parle de la période de la grande tribulation. Ça va se passer certainement. Mais même aujourd'hui, nous savons que le climat spirituel, ça ne change pas du jour au lendemain. Il y a un temps où on voit vraiment une dégradation, si on veut. Et les mêmes avertissements sont là pour nous aujourd'hui, parce qu'on sait, comme on a lu dans 1 Jean 2:18, ça dit, « Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Nous sommes dans la dernière heure. Dans Matthieu 7, verset 15 maintenant, nous lisons, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » J'aimerais ça vous lire autre chose aujourd'hui, mais j'ai besoin de vous lire ça encore. Écoutez bien, Matthieu 24, verset 11, je vais vous lire de 11 à 14. Ça dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, ou à cause du péché qui va vraiment augmenter, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. L'amour du plus grand nombre va se refroidir, où les gens ne s'aimeront plus. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Oui, c'est sûr. Il va y avoir beaucoup de séduction, où il va y avoir plein de faux oints, des gens qui vont faire des miracles, qui vont attirer une foule de personnes, qui vont être séduits, ils vont placer leur confiance dans l'homme au lieu de placer leur confiance dans la parole de Dieu. Mais la bonne nouvelle, moi j'aime ça, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Comment? Bien oui, on peut partager un à un par des voyages d'évangélisation, l'évangélisation dans nos villes, mais aussi dans les médias. Moi, je crois, comme la télévision dans 5 mois, qui va démarrer d'ici peu, malgré les ténèbres dans le monde, il y a une lumière qui se lève. Une lumière qui va prêcher la bonne nouvelle en Jésus. la bonne nouvelle en Jésus. Gloire à Dieu. Et puis, ça c'est d'autres signes. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, on comprend que nous avons besoin d'être réveillés spirituellement. Moi, je crois au réveil. On doit être réveillés spirituellement pour rester accrochés au Seigneur puis vraiment voir ce que Dieu veut faire dans nos vies pour répondre à l'appel. Amen. Dieu ne nous appelle pas à dormir, mais d'être réveillés spirituellement. Donc, oui, amen au réveil personnel. Comprenant en même temps qu'il y a une masse qui vont être une masse de personnes qui vont être séduites. C'est un des signes, la Bible nous dit, des temps de la fin, la séduction. Et là, venez avec moi dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Ça nous dit ici, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, verset 5, ayant l'apparence de la piété ou ayant l'apparence de la sainteté, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Remarquez, au verset 5, ça dit « ayant l'apparence de la piété ». Ayant l'apparence de la piété, ça dit « mais reniant ce qui en fait la force ». Là, quelle est la force du chrétien? Dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Voici ce qui va se produire dans les temps de la fin. 1 Corinthiens 1, verset 18. Et écoutez bien ceci. Il est écrit « car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La prédication de la croix est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, c'est ça la puissance de Dieu. Parce que quand nous prêchons la croix, c'est là où le pécheur peut se convertir. Quand nous prêchons la croix, c'est là où le chrétien peut découvrir qu'il a été libéré il y a 2000 ans. Quand nous prêchons la croix, c'est la source de puissance qui s'installe dans nos vies. Et là, la personne quitte le monde de la religion et entre dans cette relation vivante avec Jésus. Et c'est là qu'on peut grandir dans notre connaissance de Jésus parce qu'on n'est plus lié par le péché. Mais là, on rentre dans cette relation vivante, dans la liberté des fils et des filles de Dieu. Gloire à Dieu! Donc, la source de puissance va être reniée dans les derniers temps, la Bible nous dit. Et ce qu'on peut vraiment voir ici, ça dit « ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Ils vont renier le message de la croix. Ils vont renier le message de la croix. Et pourtant, j'ai entendu des prédicateurs dire, on n'a plus besoin de prêcher la croix, c'est des choses passées, c'est des fausses ou des anciennes misères. Mais regardez, l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 2, il a dit, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'apôtre Paul a lui-même dit ça. C'est le message de l'Église. Jésus, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est notre message. Sans la croix, on n'a pas de salut. Sans la croix, on n'a pas de guérison. Sans la croix, on n'a pas de délivrance. Sans la croix, on est encore pris dans nos péchés. Et c'est ça que l'ennemi veut taire. Et c'est pour ça que dans le corps de Christ, en général, on n'entend plus parler de la croix de Christ. Et les gens veulent mettre de côté la croix parce que ce n'est pas attirant. Ça n'attire pas les foules. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. Ils ne veulent pas être rappelés qu'ils sont pécheurs et en chemin vers l'enfer. Ils ne veulent plus entendre ces choses-là. Ils veulent recevoir un café dans l'entrée de l'église. Et voici un petit beigne. Et puis là, on va entendre un petit message. 7 clés pour vivre telle affaire dans votre vie. Parce qu'on va juste prêcher pour votre je, votre nombril. Et est-ce que Dieu est concerné par notre vie et avec des messages pratiques? Absolument. Dieu veut qu'on puisse savoir appliquer la parole de Dieu dans nos propres vies. Amen. C'est sûr. Mais est-ce qu'on va mettre de côté l'Évangile et parler simplement des choses pratiques? Non. On a besoin de prêcher l'Évangile de Jésus et de revenir vraiment à ce que Dieu a dit. C'est pour ça que ça nous dit... Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes auront l'apparence de la piété. Donc, si on est juste charnel, si on fait juste regarder avec les yeux de la chair, et puis on est attiré par les choses qui sont belles, qui semblent religieuses, des choses impressionnantes, on va peut-être se faire séduire, mais frères et sœurs, Dieu nous appelle à être vigilants. On est dans une préparation pour le règne, et comme on est dans cette préparation-là, notre devoir, c'est de grandir dans notre croissance, de grandir dans notre connaissance plutôt, du Seigneur Jésus. Et on ne peut pas passer à côté de l'œuvre de la croix. Impossible. Ça nous dit en plus, éloigne-toi de ces hommes-là. Gloire à Dieu. Et là, comme on parle de ces choses, comme on parle des temps de la fin, si on écoute un petit peu les nouvelles, vous savez ce qui se passe en Russie, vous savez comment la Russie est alliée avec l'Iran, et que l'Iran a déjà dit, écoutez, si les États-Unis font quelque chose, nous on va attaquer Israël. Vous êtes au courant de ces choses-là. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment, des choses qui ont été prophétisées dans la parole de Dieu. Si on est un petit peu allumé, on va savoir, on vit dans des temps turbulents, n'est-ce pas? On vit dans des temps turbulents. Il y a plein de choses qui se passent. Les gens, de plus en plus, parlent comment ils voient des ovnis au Québec, ça circule. Les gens disent plein de choses, même les gens au niveau du gouvernement. Il y a un homme, je ne me souviens plus de son nom, mais un homme au niveau du gouvernement canadien a déclaré qu'il croyait autant dans les extraterrestres qu'il croit dans les avions qui volent dans le ciel. Donc, il y a un courant de séduction. Nous savons que les extraterrestres n'existent pas, bibliquement, que c'est simplement des mauvais esprits pour séduire les gens. Quand l'enlèvement va avoir lieu, les gens vont croire que c'est des extraterrestres. C'est une chose, on comprend bien ça. Mais juste pour vous dire, aujourd'hui, dans cette maison, vous êtes au courant de plein d'affaires qu'on vous partage, que le Seigneur nous a donné pour vous, et vous savez qu'on vit dans ces temps-là. Mais j'ai rencontré des frères et des sœurs, et on fait juste parler des choses concernant les temps dans lesquels nous vivons, et les gens sont totalement ignorants. Il y a des gens que j'ai rencontrés, et puis on a parlé juste de l'enlèvement. On dit l'enlèvement de quoi? J'ai dit de l'Église. De l'Église, l'enlèvement de l'Église. Puis après, on explique un petit peu. Ah, ouais. Totalement déconnecté. Frères et sœurs, il y a des gens totalement déconnectés parce qu'on a juste prêché comment avoir une victoire dans vos finances, par exemple. Comment avoir une victoire dans ci ou ça, dans ça. Et oui, on prêche la victoire, mais il faut avoir tout le conseil de Dieu. Écoutez bien ceci. On vit dans ces temps-là où le climat spirituel va être incrédule. Même les chrétiens ne croiront plus la parole de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que ça me fait plaisir de vous dire ça? Non, j'aimerais mieux vous dire, « Hey, tellement un réveil massif en ce moment, c'est tellement glorieux, comment les gens se tournent à Jésus. » J'aimerais ça vous annoncer ça, mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Venez avec moi dans Luc 17, verset 26-27. Ça nous dit ici, Luc chapitre 17, versets 26 et 27. Ça dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. En autre mot, les gens font leur petite routine comme si rien n'était. Et puis ça va être comme ça, ça dit, dans les temps de la fin. Les gens vont faire leur petite routine comme si rien n'était. Et puis même s'il y avait un Noé qui disait « Entrez dans l'arche, préparez-vous », les gens étaient comme « Non ». Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient, buvaient. Se mariaient, faisaient le party. C'était comme si rien n'était. Et la Bible nous dit que ça va être la même chose dans les temps de la fin. C'est la même chose qui va se produire. Dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4, c'est une autre chose. La Bible nous dit, j'aimerais ça vous dire le contraire, mais je peux juste vous dire ce que la Bible nous dit. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4, dans la Bible du Sommeur, ça nous dit ici, « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule. » Écoutez, ça dit, « Dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs, ils vont faire à leur tête, ils tourneront votre foi en ridicule, en disant, eh bien, il a promis de venir, en parlant de Jésus, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Si vous parlez même avec des chrétiens, si vous parlez un petit peu des phénomènes qui se passent dans le monde, la Bible nous dit qu'il va y avoir une génération de moqueurs, ou même ils vont tourner votre foi dans la promesse du second retour et de l'enlèvement aussi. Ils vont tourner ces choses-là en ridicule. Ils vont vous faire avoir l'air comme si vous êtes tombé sur la tête. C'est ça que la Bible dit. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, « Il a promis de venir, mais c'est pour quand ça? » Avez-vous parlé avec des gens comme ça, peut-être, récemment? Puis c'est comme, ben voyons, ça fait longtemps. Des années 80, on en parlait, mais il n'y a rien qui s'est produit. Les gens vont être comme ça, totalement déconnectés. Et la Bible nous dit ça. Et même dans Luc 18, verset 8, pendant la grande tribulation, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer, même si on sait qu'il va y avoir des choses horribles. J'aimerais ça vous dire qu'il va y avoir un grand réveil avant la tribulation. Bien, j'aimerais bien ça, gloire à Dieu, qu'on puisse vivre ce grand réveil personnellement. Amen. On se positionne pour vivre ce réveil personnellement. Mais là où je peux vous garantir qu'il va y avoir un grand réveil, c'est pendant la tribulation. C'est ce qu'on voit. Dans la Bible, c'est garanti. Il va y avoir un grand réveil. Un grand réveil, c'est certain. Et puis, mais on sait qu'il va y avoir un coup pour ce réveil-là. Et là, après, je vais vous donner la question que le Seigneur Jésus a posée. Venez avec moi dans l'Apocalypse 6, verset 9. Êtes-vous toujours avec moi ce matin? Je sais que ça prend un petit peu de concentration, des choses qu'on a besoin de voir ensemble, mais Dieu nous appelle à être préparés. Dieu nous appelle à ne pas être ignorants. Amen. Moi, je me dis, non, mais je veux connaître ce que Dieu a dit, ce qu'il a prophétisé à l'avance. Et là, si je connais ce que Dieu a dit, je vais me préparer en conséquence. Je vais marcher dans la foi, je vais marcher dans l'intimité avec Dieu et je vais vraiment être prêt et je vais vivre la gloire dans ma vie, chaque jour de ma vie. Dans l'Apocalypse chapitre 6, écoutez bien ceci, verset 9. C'est dit, « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Donc ici, on parle des martyrs chrétiens. Verset 10, « Ils crièrent d'une voix forte et en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Les martyrs, tout ça, voici, on les retrouve au ciel qui ont été égorgés. Puis là, je pourrais voir plein de versets avec vous, mais là, on ne prendra pas le temps. Au verset 11, ça dit, « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Bon, alléluia, hein? On dit, ben c'est super ça. Donc, pendant la tribulation, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être sauvées. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 7, il va y avoir 144 000 frères juifs qui vont se convertir, qui vont avoir la révélation que Jésus était vraiment le Seigneur. Et puis, ils vont aller partout à travers le monde prêcher la bonne nouvelle. Et puis, la Bible nous dit, par la suite, il va y avoir un grand réveil. Venez avec moi dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Écoutez bien ce qui va se produire pendant la tribulation. C'est dit, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. Voyez-vous, une grande foule de personnes ici, que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Symbole de victoire ici. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » En parlant de Jésus. Et là, je pourrais continuer, mais je vais arrêter. Mais ici, ça nous dit, il va y avoir une grande foule de sauvés. Amen, l'avez-vous lu dans votre Bible? Une grande foule qui vont se tenir au ciel, qui vont louer notre Dieu et l'agneau. Donc, on sait que ça va arriver. Un grand réveil pendant la tribulation, mais ça nous dit également qu'ils vont mourir pour leur foi. Donc, vous savez qu'on prêche le réveil. On prêche beaucoup. Hey, il va y avoir un réveil, hallelujah, hallelujah. Oui, gloire à Dieu. Mais on sait bibliquement que ce grand réveil va coûter beaucoup de souffrance. Vous aimeriez ça, dire alléluia, puis sauter, mais c'est ce que je vous dis. Puis là, c'est parce que je vous dis le texte, c'est dit qu'ils ont été mis à mort. Mis à mort. Donc, bon, ben, gloire à Dieu, on dit c'est merveilleux pour les âmes qui vont être sauvées. À un tel point, dans Luc 18, verset 8, Jésus a dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ici, on parle du second retour. Donc, pendant ce temps-là, on sait qu'il va y avoir plein de martyrs chrétiens. Je pourrais vous donner plein de données, des preuves, des choses concernant Obama. Je ne le ferai pas. Mais là, Luc 18, verset 8, ça dit ça. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça veut dire qu'il va y avoir une forte opposition contre les chrétiens. Une forte opposition. Même en France, en ce moment, j'ai vu une vidéo où il y avait des gens qui sortaient d'une église et puis il y avait des musulmans qui jetaient des roches sur les chrétiens qui sortaient d'une église. Donc, on dit, c'est pas trop le fun, ça, aller à l'église puis avoir des personnes, une foule de personnes qui jettent des roches sur les gens qui sortent d'une église. Ça, c'est une opposition spirituelle. C'est une opposition spirituelle. Et on sait que ça va comme ça dans notre monde en ce moment. Si on écoute les nouvelles, même malheureusement, les nouvelles ne parlent pas trop de la persécution des chrétiens, mais on vit dans l'époque où les chrétiens se font plus persécuter jamais dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le temps en ce moment où les chrétiens sont même dans des camps de concentration en Corée du Nord. Il y a plein de choses dans le monde qu'on n'entend pas dans nos nouvelles, mais vous pouvez aller sur des sites web chrétiens comme Ministère Porte Ouverte, des choses semblables. Vous pourrez découvrir plein de choses qui se passent dans le monde. Mais pourtant, on n'en parle pas. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne parlait pas non plus des Juifs qui mouraient dans les camps de concentration. Hein? On ne disait rien, on n'en parlait pas, mais c'est une réalité quand même. Et nous, aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, dans notre confort, vous êtes bien assis dans l'auditorium. Hein, on est bien chauffé, l'été bien climatisé, on est confortable sur nos beaux fauteuils rouges et confortables. Il n'y a pas de problème, la belle louange, tout ça. On n'est pas caché, on n'est pas dans une église souterraine parce qu'on n'a pas peur de se faire tuer, parce qu'on est au Canada, dans un pays béni. Mais gloire à Dieu. Mais ceci dit, la réalité est quand même là. Donc, on sait qu'il va y avoir un grand réveil, mais avant ce réveil-là, personnellement, je veux vivre mon réveil. Je veux vivre mon réveil pour être prêt. Amen. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Si moi, je peux être réveillé, si je peux être conscient que la Bible dit, dans les derniers temps, il va y avoir un courant de séduction. Et ça, c'est un des signes majeurs, des faux oints qui vont se lever. Plein de faux oints, plein de personnes qui se disent, c'est moi, le ministère de l'heure, c'est moi. Ils ne vont pas le dire comme ça nécessairement, mais les gens vont être attirés vers des personnalités. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est être conscient. Il va y avoir plein de faux oints, mais moi, je veux suivre le oint de l'Éternel Jésus. Je veux suivre sa parole. Je veux avoir mes yeux dans sa parole. Et s'il y a quelqu'un que j'admirais, admettons, mais il prend un mauvais chemin, je vais rester avec la parole de Dieu. Je ne suivrai pas l'homme, je vais suivre ce que Dieu dit dans sa parole. Et ma loyauté va être envers la parole de Dieu. Et si Dieu vous appelle à prendre en anglais on dit « take a stand » en français, prendre une position pour Christ, et même si ça vous coûte de l'argent, des fois, Dieu nous appelle à faire ça. Des fois, on va perdre des amis. Des fois, il va y avoir un prix. Il va y avoir un prix, des fois, pour se tenir pour la vérité de Jésus. Mais Dieu nous dit, si on fait ça, Dieu va bénir. Et Dieu pourvoit. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce message-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retirer? Il y a un contexte spirituel marquant dans la parole de Dieu qui nous dit, si on le sait, là, que c'est un temps où les gens vont cesser de s'aimer, où les gens vont être rebelles, toutes ces choses qu'on a vues ensemble, où les gens vont devenir des moqueurs, même dans les églises, où les gens vont se moquer quand on a notre foi dans les promesses de Dieu, et les gens vont rouler leurs yeux, par exemple, et puis toutes ces choses-là, il va y avoir une explosion de faux oints. Toutes ces choses qui peuvent être tristes, on peut entendre le rapport aujourd'hui, puis dire, ben, finalement, là, moi, cette prédication-là ne m'a pas vraiment béni. Mais si à cause de cette prédication-là, aujourd'hui, vous êtes encore plus engagé envers Dieu, puis vous dites, moi, je veux me tenir dans la vérité. Je veux être vigilant. Je ne veux pas me laisser avoir avec les courants de l'heure. Je ne veux pas m'endormir spirituellement. Mais je veux me tenir réveillé. Et oui, il y a un réveil, mais ça commence individuellement. Amen. Mon réveil, le réveil de Dieu commence en moi. Et je veux rester et vraiment être réveillé et demeurer réveillé pour le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Marc 1, verset 35. Et j'ai bientôt fini, parce que je pourrais dire tellement d'affaires, mais je ne vais pas vous surcharger. Comment faire? Comment faire? Si on sait qu'on vit dans des temps comme ça, des temps difficiles, comment faire pour persévérer fidèlement? Bien, on a des beaux modèles dans la parole de Dieu. Nous avons Jésus, le Seigneur Jésus. Dans Marc, chapitre 1, verset 35, nous lisons, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Si on voit, le Seigneur Jésus nous donne le modèle, il priait. Le Seigneur Jésus, avant d'être crucifié sur la croix, il priait. Vous connaissez l'histoire? Il priait. Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus a dit, « Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous ici, le Seigneur Jésus nous a montré « Ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père. » Si je réalise, c'est ça mon mandat sur ma vie, connaître mon Dieu, être à l'écoute de sa voix pour entendre ce que Dieu m'appelle à faire et de faire sa volonté avec ma vie. Et là, dans Jean 15, verset 15, Jésus dit « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. » Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que Dieu nous dit, on doit vraiment être accroché au Seigneur pour porter du fruit, pour voir nos bien-aimés recevoir Seigneur Jésus. Amen. Donc, on voit ça, c'est un modèle, c'est simple, n'est-ce pas? La prière, la consécration, le temps dans la parole, le temps où le Seigneur vient nous revêtir de sa présence. Et si on voit également le modèle du roi David, dans le psaume 55, verset 16. Le psaume 55, c'est dit, le roi David a dit, « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera le soir, le matin et à midi. Je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Encore une fois, on voit ici un modèle de prière dans la vie du roi David. Vous connaissez Daniel aussi, qui était dans la fosse au lion, qui a été protégé surnaturellement. Dans Daniel 6, verset 10, nous lisons, « Trois fois le jour, il se mit à genoux, il priait et il louait son Dieu. » Voyez-vous le modèle qu'on retrouve, la prière, la louange, la parole, toute cette place de consécration. on doit demeurer proche de notre Seigneur dans la prière. Amen. Je pourrais continuer. Mais une des dernières choses, je vais vous donner, dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Avec tout ce qu'on a entendu dire, avec cette exhortation que je vous donne, dans le sens qu'on doit comprendre, oui, on est sauvé par la grâce, mais on est également appelé à marcher et à servir le Seigneur et porter beaucoup de fruits. On est appelé à servir, on est appelé à faire quelque chose pour Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, nous lisons, « Soyez mes imitateurs. » L'apôtre Paul a dit ça. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ou dans la Bible de Sommeur, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. » Dieu vous appelle personnellement à devenir un mentor pour quelqu'un. Dieu vous appelle à être une personne, quand une nouvelle personne accepte le Seigneur, vous êtes une personne qui peut dire, « Écoute, suis-moi, fais comme je fais, fais comme je fais. » Et là, vous prenez une nouvelle personne qui vient d'accepter le Seigneur, vous leur montrez comment prier, vous leur montrez comment lire la parole, vous leur montrez comment être fidèle dans l'église locale, vous leur montrez comment ça se passe dans la vie chrétienne. Dieu nous appelle à faire ça, à faire des disciples. Amen. Croyez-vous ça? Dieu nous appelle à faire des disciples. Donc, ce que l'apôtre Paul a dit, « Soyez mes imitateurs. » Aujourd'hui, êtes-vous prêt à dire à quelqu'un, « Sois mon imitateur, imite-moi. Regarde ma vie, là. Fais comme moi. Fais comme moi. » Quelqu'un vient d'accepter le Seigneur. Là, vous dites, « Écoute, fais comme moi. Je veux que tu fasses exactement comme je fais. » Si vous dites, « Oh, non. J'ai vraiment beaucoup de chemin à faire. » Bien, vous n'arriverez jamais à faire du chemin tout seul. Vous avez besoin de grandir dans votre connaissance de Jésus. Amen. Si on arrive à grandir dans notre connaissance de Jésus, on va pouvoir le dire. Pas parce qu'on est parfait. Oh, il n'y a pas d'être humain de parfait. Mais dans notre vie, on peut dire, moi, je suis capable d'aider quelqu'un à grandir avec Jésus. De leur montrer comment ça se passe, la vie de prière. Je vais leur montrer comment prier. Je vais leur montrer comment avoir du temps à la parole. Comment est-ce qu'on arrive à faire une étude biblique? Comment on arrive à faire ça? Puis vous dites, bien là, c'est le pasteur qui va tout nous expliquer. Non, c'est pas le pasteur. On doit savoir nous-mêmes. Puis si vous dites, oui, mais moi, ça fait des années, on ne me l'a jamais montré. Bien, gloire à Dieu. Mais là, vous allez peut-être dire, ouais, mais ça va me prendre de mon temps. Oui, c'est ça. Parce qu'un disciple va prendre du temps. Le disciple va prendre du temps. Oui, mais ça veut dire que je vais peut-être être obligé de lire un manuel puis mémoriser des versets, peut-être. Oui, je sais. Hey. Je vais être obligé de lire ma Bible. Peut-être qu'il faudrait même que j'apprenne à prier. Oui, je sais. Oh. Mais frères et sœurs, j'aimerais ça vous dire, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour être sauvé. Sauf vous dire, oui, Jésus, je t'accepte. Puis là, si on n'avait rien à faire, il pourrait venir nous chercher tout de suite, on pourrait mourir. Puis là, bingo, on monte au ciel tout de suite. Mais Dieu, s'il nous laisse sur la terre, c'est pour faire quelque chose, n'est-ce pas? Il nous appelle à faire quelque chose. Pensez-vous qu'il nous appelle à faire des choses sans être équipé, puis sans savoir quoi faire? Si on ne sait pas quoi faire, faut arriver à cette place où on arrive à savoir quoi faire, n'est-ce pas? Amen. Et je vous dis ceci, ce n'est pas pour faire penser que c'est juste une question intellectuelle. Puis non, mais c'est juste comprendre, je suis sauvé pour servir Dieu. Je suis sauvé pour grandir dans ma connaissance du Seigneur Jésus. Et quand la voix du Seigneur Jésus me dit quelque chose, je suis protégé. Admettons, vous écoutez quelque chose sur Internet. Puis là, dans votre esprit, vous voyez quelque chose, ça vous surprend. Il y a une nouvelle chose qui arrive. Dans votre esprit, ça dit, ça, ce n'est pas de Dieu. Et là, vous êtes tellement habitué d'entendre votre Seigneur vous parler, vous allez reconnaître sa voix, vous allez savoir, « Oh, ça, je ne peux plus écouter ça parce qu'il y a un mauvais courant. Il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu là-dedans. » Des fois, vous allez dire, « Ben, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a dit de ne pas endosser telle ou telle affaire. » C'est arrivé des fois, les gens me disaient, « Pourquoi qu'on n'invite pas tel invité? Il était à Granby, on pourrait l'avoir dans notre église. » Puis là, dans mon esprit, ça me disait, « Non. » Puis là, je ne pouvais pas l'expliquer pourquoi. Dans mon esprit, ça me dit, « Non, je ne sais pas pourquoi. » Mais quelques temps plus tard, on apprend des histoires. Pourquoi? Parce que si on apprend à entendre la voix de Dieu, on va être protégé. On va être protégé. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais ça vous dire, ben je vais vous dire, nous sommes victorieux en Jésus. J'aimerais ça vous dire ce matin, alléluia, Jésus, il prend soin de tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. C'est vrai. Amen, je vais vous dire. Hein? Le croyez-vous? Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire que Jésus guérit toutes nos maladies, le psaume 103. Le croyez-vous? Amen. J'aimerais ça vous dire que Dieu va bénir votre famille. Le croyez-vous? Amen. Mais, si je vous disais juste ça, vous seriez mal équipé pour vivre dans les saisons dans lesquelles nous vivons. Puis, c'est, moi là, j'aimerais donc ça, mais je suis obligé de vous dire ce que Dieu me donne. Vous êtes mal pris, hein? Vous êtes pris avec un pasteur que des fois, il dit, ben là, c'est pas ça, je l'entends. Vous irez à la maison, allez choisir une prédication sur enseignement.com, quelqu'un qui va vous prêcher sur la bénédiction. Allez écouter ça, vous êtes béni. Là, au moins, vous avez vécu ce que vous avez à vivre. Vous êtes préparé, là. Amen. Amen. Puis là, allez vous édifier. Non, mais en même temps, la vérité, il faut que ça soit édifiant, n'est-ce pas? La vérité va nous protéger. Amen. La vérité va nous garder dans les voies de Dieu, puis on ne se fera pas avoir. Puis si on est juste tout le temps comme « Oh, hallelujah, oh, hallelujah », puis après, il y a des affaires qui vont tout croche, puis là, hein, c'est quoi cette affaire-là? On n'était pas du tout préparé. Là, après, on peut être déçu. On peut être déçu, puis après, se planter spirituellement. Mais il n'y a pas un chat dans cette place qui va être planté spirituellement, parce qu'on est tous allumés. Amen. Vous êtes tous allumés. Vous êtes au courant des choses que Dieu nous dit, puis on a notre responsabilité personnelle. Moi, je me tiens réveillé pour Jésus. Puis Dieu me dit d'être réveillé, puis il me montre comment. C'est dans la consécration. Puis ça me donne encore plus le goût d'être demain matin à prière à 6 heures le matin là, avec Pasteur Jérémy qui va m'enseigner comment avoir une vie de prière révolutionnaire. Puis ça se peut que ma chair va dire « Non, je ne veux pas entendre ça. Non, je ne veux pas prier en langue. Non, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. » Et là, l'esprit domine sur la chair et dit « Tu vas prier. » Amen. Ça se peut que ça soit comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Père éternel, on te remercie. Parce que c'est un Dieu qui dit la vérité. Père éternel, on te remercie pour ton onction qui est disponible pour nous. Seigneur, tu ne nous appelles pas à marcher, juste connaître ces choses-là sans nous accompagner. Mais Seigneur, ton onction est déversée sur nous. Ton onction est déversée sur nous. Et Seigneur, on est rempli de joie. Dans ta parole, ça dit, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Et Seigneur, cette joie qui est dans mon esprit, qui est dans l'esprit de chaque personne, Seigneur, on reçoit, on connecte avec cette joie-là et on la laisse ressortir. Alléluia. Merci pour ton onction qui est sur nos vies. Ton Saint-Esprit qui est sur nous, en nous, qui nous remplit. Merci parce qu'on aussi, on a la pensée de Christ, comme c'est écrit dans la parole. Merci parce que tu nous donnes des yeux pour voir. Nous marchons dans le discernement. On n'est pas là, on ne veut pas juste entendre des paroles qui sont là pour nous chatouiller les oreilles, mais on veut grandir dans tes voies. On veut te connaître intimement, Seigneur Dieu. On veut marcher dans la joie et être des instruments de tes mains pour gagner le plus grand nombre. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu merveilleux. Et je crois, Seigneur, que cette parole est déposée dans les cœurs et que chaque frère et sœur reçoit cette parole et qu'ils sont protégés par toi. Ils sont protégés et il n'y a aucune séduction qui va venir dans leur vie. Ils sont protégés parce qu'ils reçoivent cette parole. Alléluia. Leurs yeux demeurent sur toi, sur ta parole. Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la